La loi du talion, œil pour œil et dent pour dent, est tirée des commandements que Dieu a donnés à Moïse. Mais le système judiciaire des Israélites était tout aussi complexe que celui qui existe aujourd'hui dans les nations démocratiques. C'est ce qu'il ressort de la fin du livre des Nombres, le quatrième des cinq écrits par Moïse. Dans l'avant-dernier chapitre, l'Éternel donne des ordres aux Israélites sur l'organisation et la structure du gouvernement qu'ils devront adopter une fois qu'ils auront traversé le Jourdain et conquis le pays de Canaan. Il faut garder à l'esprit que cette nation sera une théocratie, c'est-à-dire qu'elle aura Dieu pour souverain, ce qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Je continue la lecture du chapitre 35 des Nombres. L'Éternel parla encore à Moïse et lui dit « Dis aux Israélites, vous allez traverser le Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan, et vous vous choisirez des villes qui vous serviront de cités de refuge, où pourront se réfugier les auteurs d'homicides involontaires. Ces villes vous serviront d'asile pour protéger le meurtrier de l'homme chargé de punir le crime, afin qu'un meurtrier ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant la communauté pour être jugé. Vous désignerez 6 villes de refuge, 3 villes au-delà du Jourdain et 3 autres dans le pays de Canaan. » Versets 9 à 14. Chez les peuples anciens régnait, comme aujourd'hui encore dans certaines tribus arabes, le droit et même le devoir de la vendetta, c'est-à-dire qu'un meurtre doit être vengé par le plus proche parent de la victime. Mais il existait aussi le droit d'asile, d'après lequel le coupable, qui parvenait à se réfugier dans quelque sanctuaire inviolable, y était provisoirement à l'abri. La loi de Moïse institue et règle cette pratique. La vendetta y est reconnue, mais elle est limitée par son application exclusive au cas de meurtre volontaire, puis par l'établissement de lieux de refuge où le coupable est en lieu sûr, jusqu'à ce qu'un tribunal compétent ait décidé si la mort fut un homicide volontaire ou accidentel. Cependant, ces villes de refuge ne protégeaient nullement un véritable assassin. Je continue le texte en compressant. S'il l'a bousculé par accident et non par inimitié, ou lui a lancé un projectile sans mauvaise intention, ou s'il a fait tomber sur lui une pierre sans l'avoir vue, et qu'il a causé sa mort sans avoir l'intention de la donner, et sans avoir cherché à lui faire de mal, il devra rester dans la ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre, qui a été oint d'huile sainte. Mais s'il quitte l'enceinte de la ville de refuge où il s'est retiré, et si l'homme chargé de punir le crime le rencontre à l'extérieur du territoire de sa ville de refuge et le tue, cet homme ne sera pas coupable de crime, car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Après cela, il pourra retourner sur les terres qui lui appartiennent. Ces ordonnances auront pour vous force de loi, pour toutes les générations, partout où vous habiterez. Versets 22 à 29. Il ressort de ce texte que l'auteur d'un homicide involontaire voyait sa liberté sérieusement restreinte, puisqu'il était confiné à un petit village et qu'il mettait sa vie en péril s'il en sortait. Il était éloigné de sa famille et ne pouvait plus s'occuper lui-même de ses affaires. En pratique, il avait le statut de prisonnier. Son châtiment est toutefois équitable. En effet, comme il n'avait pas suffisamment pris garde à la vie de son prochain, maintenant il allait devoir faire extrêmement attention à la sienne. Cependant, il retrouvait une pleine liberté lors du décès du grand prêtre en exercice au moment de l'accident. La mort de ce dernier avait donc une valeur expiatoire. Cette loi montre que même l'homicide involontaire devait être racheté et effacé par une mort d'homme. Je continue jusqu'à la fin du chapitre en compressant. toutes les fois qu'un meurtre aura été commis, c'est seulement sur la déposition de plusieurs témoins que le meurtrier sera mis à mort. D'autre part, vous n'accepterez pas de rançon en échange de la vie d'un meurtrier qui a été reconnu coupable d'un crime méritant la mort. Il doit être mis à mort. Ne profanez pas le pays où vous vous trouvez. En effet, le sang versé profane le pays, car pour le pays, il n'y a pas d'expiation pour le sang qui a été versé, sinon par le sang de celui qui l'a répandu. Vous ne rendrez pas impur le pays où vous demeurerez et dans lequel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des Israélites. Versets 30 à 34. Le sang ne peut être lavé par l'argent. Dans l'économie divine, l'homicide volontaire doit être expié par la peine capitale. Contrairement à ce que disent les opposants à la peine de mort, celle-ci n'est pas un meurtre ajouté au premier. Au contraire, elle efface le crime de sang. L'homicide involontaire, quant à elle, est expié indirectement lorsque le grand prêtre meurt. D'une manière ou d'une autre, et comme je l'ai déjà dit, l'assassinat d'un homme doit être effacé par la mort d'un autre homme. Nous arrivons maintenant au dernier chapitre du livre des Nombres qui reprend et achève l'histoire des cinq filles de Tselophad, de la tribu de Manassé, qui vinrent trouver Moïse suite à la mort de leur père. N'ayant pas de frères, elles furent autorisées à hériter du domaine familial. Mais comme l'héritage passait par la lignée du mari, le partage équitable du pays entre les tribus risquerait, à la longue, de se trouver compromis par les transferts de propriété d'une tribu à l'autre. Alors Moïse donne les directives suivantes. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tselophad. Elles peuvent épouser qui elles voudront, à condition que ce soit un membre d'une famille de la tribu de leurs ancêtres. Ainsi, le patrimoine foncier des Israélites ne passera pas d'une tribu à l'autre et chaque Israélite restera attaché au patrimoine foncier de la tribu de ses ancêtres. Si dans l'une des tribus des Israélites, une fille hérite d'un patrimoine foncier, elle devra épouser un homme d'une famille de la tribu de son père, afin que chaque Israélite conserve intact le patrimoine foncier de ses ancêtres. Versets 6 à 8. C'est ainsi qu'est réglé ce problème. Les filles qui héritent pour une raison ou pour une autre doivent se marier au sein de leur tribu. Un point, c'est tout. Je finis le livre des Nombres. Tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse dans les steppes de Moab sur la rive du Jourdain à la hauteur de Jéricho. Verset 13. Toutes les ordonnances qui viennent d'être données l'ont été alors qu'Israël campe dans la plaine du Jourdain. La question du partage du pays promis apparaît bien évidemment comme une question majeure, comme l'ont témoigné les nombreuses instructions relatives aux frontières, aux responsables du partage, aux villes de refuge et à celles accordées aux Lévites, ainsi que les cas particuliers comme celui des filles de Tselophad. Le fait d'aborder ces questions avant même la conquête effective du pays prouve que le peuple avait foi dans les promesses divines. Au début du livre, Israël était encore au mont Sinaï, mais 40 ans se sont écoulés. Et après bien des péripéties, voici Israël aux portes du pays promis. Ainsi se termine donc le livre des Nombres écrit par Moïse. Il nous reste encore à voir celui du Deutéronome, du même auteur, et cela complétera le Pentateuque, cet ensemble des cinq premiers livres de l'Ancien Testament, souvent appelé la Loi. Mais avant d'en venir là, je vais couvrir le quatrième évangile du Nouveau Testament, celui écrit par l'apôtre Jean, qui est également l'auteur de 3 épîtres et du livre de l'Apocalypse, le dernier des textes sacrés. Dans son argument pour l'évangile de notre Seigneur Jésus selon saint Jean, le grand réformateur Jean Calvin écrit « J'ai coutume de dire que cet évangile est la clé qui aide à comprendre les autres. » Fin de citation. Des penseurs chrétiens de tous les temps ont partagé cette opinion, découvrant dans cette histoire de Jésus une profondeur inégalée de vérité spirituelle à cause peut-être de la simplicité du texte. Si ce récit et ces discours de Jésus avaient été inventés par l'apôtre Jean, alors nous aurions en lui quelqu'un de plus grand que le Christ. Il est généralement admis que l'évangile de Jean est le plus facile à comprendre des quatre parce que son langage est très simple. En effet, le vocabulaire est essentiellement composé de mots d'une ou deux syllabes. Je vais donner un exemple tiré du premier chapitre. Je lis. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Fin de citation. Le vocabulaire est des plus faciles et n'importe quel élève en primaire comprendrait chacun de ces mots. Cependant, le sens et la magnitude de ces 3 courtes phrases dépassent mon entendement. Voici un autre exemple avec une phrase qui fait partie d'un discours de Jésus vers la fin de son ministère. Je la cite. « Vous en moi et moi en vous ». Cette parole comprend 7 mots, une conjonction et une préposition et 2 pronoms répétés 2 fois. N'importe quel enfant de 4 ans est capable de comprendre ces mots indépendamment les uns des autres. Mais mis ensemble, dans l'ordre donné par Jean, aucun théologien, aussi brillant soit-il, n'a jamais été capable d'en sonder la profondeur. Cette double union du croyant avec Jésus-Christ est mystérieuse. Les mots sont simples, mais leur signification spirituelle transcende notre compréhension humaine. Jérôme, un de ceux qu'on a coutume d'appeler un père de l'Église, a dit « Jean excelle dans la profondeur des mystères divins ». Et quelqu'un d'autre a écrit « Cet évangile touche le cœur du Christ ». L'évangile de Jean puise sa source dans les cieux. C'est ce qui le différencie des 3 autres, Matthieu, Marc et Luc. Quant à Jean, son auteur, son nom n'apparaît nulle part, ce qui, au sens strict du terme, rend son ouvrage anonyme. Dans un sens, cela n'est pas surprenant, car la forme littéraire des évangiles est différente d'une épître. Je m'explique. Quand l'apôtre Paul écrit, il commence toujours en mentionnant son nom, ce qui était la coutume de l'époque. Par contre, aucun de ceux qui ont écrit les 4 évangiles ne se présente. Cela ne veut pas dire qu'on ne les connaît pas, puisqu'ils se révèlent indirectement à travers l'histoire qu'ils racontent. Et de plus, nous pouvons nous appuyer sur une tradition solide qui attribue à Matthieu, Marc, Luc et Jean leur évangile respectif. Par exemple, pour Jean, Polycarpe, qui vécut entre l'an 69 et 155 après Jésus-Christ, connaissait bien l'apôtre Jean. Or, il aurait dit « Jean, le disciple du Seigneur, qui s'était également appuyé sur la poitrine de Jésus, avait lui-même publié un évangile lors de son séjour à Éphèse, en Asie. » C'est en tout cas ce qu'affirme Irénée, un autre père de l'Église, qui vécut entre l'an 130 et 200 après Jésus-Christ et qui fut évêque de Lyon. On sait par ailleurs que Clément d'Alexandrie, Tertullien ainsi que d'autres pères de l'Église corroborent cette tradition comme quoi Jean est l'auteur du 4e évangile. En outre et toujours selon la tradition, on est quasi certain que c'est après l'an 85 de notre ère, alors que Jean était déjà un vieillard, qu'il a reçu la révélation de Dieu lui permettant d'écrire l'Évangile, les trois épîtres et l'Apocalypse. D'ailleurs, il est évident, d'après la fin de son Évangile, que Pierre est lui-même devenu vieux et que Jean lui a survécu. Tout ceci dit, la question la plus significative est de savoir pourquoi Dieu a voulu que nous ayons cet Évangile. L'objectif de Jean, tel qu'il le définit lui-même à la fin de son ouvrage, était de rapporter les signes et miracles de Jésus afin que le lecteur croit en lui. Il dit exactement « Jésus a accompli, sous les yeux de ses disciples, encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. » Fin de citation. La vie, voyez-vous, c'est ce dont nous avons besoin, vous et moi. Le monde entier, les milliards qui grouillent et qui meurent sans espérance, n'ont aucunement besoin de religion, mais de la vie éternelle. Il ne fait aucun doute que Jean avait d'autres raisons valables pour écrire, comme par exemple pour combattre certaines hérésies empruntées à la philosophie grecque comme le gnosticisme ou encore dénoncer le judaïsme tel qu'il était encore pratiqué. On pourrait également croire, a priori, que Jean ait voulu compléter les trois autres évangiles. Pourtant, son ouvrage ne fait aucunement penser à du patchwork ou à un bouche-trou pour remplir un espace vide. Loin s'en faut. Cet évangile est très spécifique, comme le déclara saint Augustin qui a dit « Dans les quatre évangiles, ou plutôt dans les quatre livres du même évangile, l'apôtre Jean, comparé à juste titre à un aigle pour son discernement spirituel, élève sa proclamation de l'évangile plus haut et de manière encore plus sublime que les trois autres, afin d'élever également nos cœurs avec elle. » Fin de citation. Tout ceci pour dire que lorsqu'on aborde le quatrième évangile, on constate qu'il ne commence pas du tout comme les autres. Par exemple, il passe sous silence la généalogie du Christ ou sa naissance miraculeuse à Bethléem. D'ailleurs, soit dit en passant, que ce n'est pas en chantant des cantiques de Noël qu'on devient chrétien. Jean ne parle pas non plus du baptême de Jésus, de la tentation dans le désert, de son pouvoir de chasser les démons, des paraboles, de la transfiguration, de la commémoration de son sacrifice au moyen du pain et du vin, de son agonie dans le jardin des Oliviers, ni de son ascension dans le ciel. Rien de tout cela. L'auteur met l'accent sur le ministère du Christ à Jérusalem, sur les fêtes du peuple juif, sur les contacts intimes de Jésus avec certains individus dans le cadre de conversations privées, ainsi que sur la formation de ses disciples. Le corps de l'Évangile selon Jean, qui couvre la moitié de l'ouvrage, est constitué en grande partie de ce qu'on pourrait appeler un catalogue de signes divins. Il relate des miracles qui prouvent que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Ce livre des signes contient également de longs discours prononcés par le Christ, expliquant la signification de ces miracles. Par exemple, après avoir nourri les 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, Jésus se révèle comme le pain de vie que le Père céleste donne pour la vie du monde. Une autre caractéristique spécifique au quatrième évangile est la liste des « je suis » de la part de Jésus, comme « je suis le chemin, la vérité, la vie, la résurrection, etc. » Tous ces « je suis » prononcés par Jésus et que nous verrons au fil du texte. Chacun des quatre évangélistes a choisi, parmi un grand nombre de renseignements, ceux qui allaient le mieux servir son objectif. On a évalué que la lecture à haute voix de toutes les paroles prononcées par Jésus et présentées par Matthieu, Marc et Luc ne prendrait guère plus de 3 heures. Étant donné que le ministère de Jésus a duré 3 ans, il est évident qu'un tel échantillonnage ne constitue qu'une bien petite partie de son enseignement. Jean présente un portrait distinctif de Jésus qui est à plus de 90% original, c'est-à-dire différent des 3 autres évangélistes. Chacun d'entre eux a choisi les miracles, les événements et l'enseignement qu'il voulait présenter en fonction du but qu'il s'était fixé et des gens auxquels il s'adressait. Jean s'adresse en priorité à ceux qui ont déjà des dispositions favorables envers Jésus. Les chapitres 13 à 17 pourraient presque porter la mention « pour croyants seulement ». Le mot-clé du 4e évangile est le verbe « croire » qui apparaît 98 fois, souvent au présent de l'indicatif, et sous forme de participe. Il semble que Jean ait ainsi voulu mettre l'accent sur une confiance active, continue et vivante en Jésus. Par contre, la foi en tant que nom n'est jamais utilisée par Jean. Par ailleurs, Jean décrit beaucoup plus que Matthieu, Marc ou Luc tout ce qu'a fait le Christ après sa résurrection. En fait, il en parle plus que les 3 autres auteurs réunis et mentionne 7 occasions différentes où Jésus est apparu à divers disciples. La première fut à Marie de Magdala qu'il avait délivrée d'une légion de démons, puis ce fut à 2 reprises aux disciples rassemblés dans la chambre haute, une première fois sans Thomas le douteur et une seconde fois avec lui. La 4e occasion fut quand Jésus apparut sur le rivage de la mer de Galilée, d'où il appela ses disciples qui étaient en train de pêcher pour leur demander s'ils avaient attrapé du poisson, suite à quoi il leur a préparé un déjeuner sur la berge. J'aurais bien aimé être de la partie, manger là avec le Seigneur ressuscité et voir dans ses mains et ses pieds les marques des clous. Ensuite, c'est à Pierre qu'il apparaît afin d'avoir avec lui une longue conversation au cours de laquelle il a vidé l'abcès du reniement de son disciple. Cette cure d'âme était nécessaire afin que Pierre puisse devenir le grand homme de Dieu que nous connaissons et que nous révèle le livre des Actes.